Merci Seigneur, bonjour à chacun. Je voudrais vous inviter à ouvrir la Bible dans Colossiens, la suite de cette petite étude que nous faisons sur l'Épître aux Colossiens. Et nous allons lire ce verset, le verset 21 du chapitre 1er, qui nous rappelle un petit peu ce que nous avons vu la semaine dernière. Je sais que la plupart, je pense, n'étaient pas là, et nous avons vu qu'il y avait quatre maintenant dans l'évangile, dans l'Épître aux Colossiens, mais qu'il y en avait un qui concernait l'apôtre Paul, et trois qui concernaient les chrétiens de Colosse, et par déduction, ça concerne chacun d'entre nous cet après-midi, nous tous qui appartenons au Seigneur, et la pensée qui est là, c'est maintenant que nous sommes en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant que nous sommes en Christ? Eh bien, la première chose qu'il est dite au verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. » Maintenant que nous sommes réconciliés, nous devons marcher dans la sainteté et au verset, c'est au verset, alors je ne le retrouve plus, en tout cas il est dit juste avant, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Je vais le retrouver, verset 12. « Rendez grâce au Père. » Maintenant que vous êtes réconciliés, il doit y avoir dans votre cœur quelque chose qui vous pousse à la louange, qui vous pousse à la reconnaissance. Et si ce n'est pas le cas, si même si vous êtes dans la tempête et dans la souffrance, il n'y a pas quelque chose qui vous fait éclater en louange, c'est qu'il faut que vous considériez davantage la réconciliation, l'œuvre de Jésus à la croix. Avant, j'étais ennemi. Maintenant, je suis réconcilié, et le résultat logique, c'est que j'abonde dans l'action de grâce, je rends grâce. Comment est-ce que Dieu va pouvoir ensuite me révéler sa parole? Comment est-ce que Dieu va pouvoir me parler si je n'ai pas d'abord ce cœur qui rend grâce, qui se rend compte de l'œuvre qui a été faite sur la croix? Ce premier maintenant, il nous parle de la croix, mais le deuxième maintenant nous parle de la parole de Dieu, et c'est au verset 25, il dit... C'est de l'Église, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, nous l'oublions pas, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant à qui? À ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, que le mystère est révélé, c'est ça le deuxième maintenant qui est donné. Maintenant que le mystère est révélé en Christ, alors je vais pouvoir rejeter les fausses doctrines. Avant, toutes ces choses s'étaient cachées. Quand je lisais la parole, mais que j'étais pas né de nouveau, que j'avais pas cette nouvelle nature dont on a entendu parler tout à l'heure, tout ce que je pouvais lire dans la parole ne me servait à rien. Et c'était comme un mystère caché. Quand on lit l'Ancien Testament, quand même les Israélites lisaient la loi, il y avait des choses qui étaient obscures pour eux parce qu'ils n'avaient pas la compréhension de Jésus-Christ qui était mort en croix. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais ils n'avaient pas tous. Il y en a certains qui l'ont vu clairement, des prophètes, qui ont vu clairement Ésaïe 53. On voit que Ésaïe, il avait compris que Jésus allait venir mourir en croix. Mais il y en a qui n'avaient pas tout compris forcément du peuple d'Israël. Mais nous pouvons nous trouver dans le même cas, même si ça s'est passé déjà. On peut connaître l'histoire de Jésus de manière théologique, de manière historique, mais ne pas avoir la révélation de la parole de Dieu qui vient nous parler, nous communiquer quelque chose quand nous lisons la parole. Souvent, je cite mon propre exemple où j'ai lu la Bible, je l'ai lu avec obéissance, je l'ai lu avec fidélité, mais je l'ai lu sans le secours du Saint-Esprit, sans la communion avec Jésus-Christ, et le résultat, c'est que ça ne me servit strictement à rien. Mais dès le moment où ma nature a été changée, dès le moment où j'ai laissé l'Esprit de Dieu être en communion avec moi dans mon cœur, que j'ai vraiment accueilli le Seigneur Jésus dans ma vie, et bien, toutes ces choses ont commencé à prendre leur sens. Les versets que je lisais ont commencé à s'embraser dans mon cœur et ont commencé à me communiquer une force. Et quand je lis que la nourriture, notre nourriture, ça vient de la bouche de Dieu, je comprends que tout ce qui est dans la parole de Dieu, ça doit nous communiquer une force. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est pas seulement quelque chose que j'ai compris. Ah oui, c'est vrai que si je lis la Bible, ça va me faire du bien. Et puis je la lis et ça me fait pas du bien. Parce que je le fais de manière mauvaise, de manière traditionnelle.
Si le mystère est révélé en Christ, la conséquence immédiate que ça doit faire, c'est que ça doit nous amener à rejeter toutes les fausses doctrines. Est-ce que, mes amis, on n'est pas dans un monde où il y a une foule de fausses doctrines? Vous allez me dire, non, tout ça c'était au temps des Colossiens, c'est vrai qu'il y avait des faux docteurs qui se levaient et qui annonçaient toutes sortes de choses bizarres. Mais cliquez un petit peu sur Internet et tapez Jésus ou tapez Dieu et vous verrez sur quoi vous allez tomber. Je vous dis que 80% de ce que vous allez voir n'est pas la doctrine du Seigneur. Et il faut vraiment filtrer, c'est d'ailleurs vrai pour tous les sujets, mais c'est encore plus vrai pour ce qui concerne Dieu. Quand on regarde sur Internet, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de doctrines qui sont mauvaises. Et le danger que l'on voit quand on a des entretiens avec les personnes, on se rend compte que beaucoup de gens cherchent partout, dans toutes sortes de livres, dans toutes sortes de messages d'orateurs qui sont archi connus, ils cherchent certaines vérités qu'ils auraient pu découvrir eux-mêmes dans la parole, et la conséquence, c'est qu'ils se font tromper, ils sont leurrés par les discours persuasifs de ces personnes. Il y a des personnes qui parlent tellement bien, qui montrent des vidéos peut-être, qui font toutes sortes de choses, qui appâtent les gens, mais qui finalement ne sont pas la saine doctrine. Et avant de pouvoir lire un livre, même qui concerne même un livre de la bibliothèque, c'est pas pour faire du tort à la bibliothèque, mais même avant de lire un livre qui concerne Dieu, est-ce que c'est pas important que je lise déjà toute la Bible pour avoir une connaissance de la parole? Mes amis, est-ce que cet après-midi vous pouvez dire, moi j'ai déjà lu toute la Bible? Est-ce que vous pouvez avoir cette affirmation? Moi je me souviens que quand je me suis donné au Seigneur totalement, j'ai lu la Bible en très peu de temps. Mais parce que j'avais une telle faim et une telle soif dans mon cœur que ce n'était pas un fardeau. Et même si par la suite j'ai pu lire certains livres, tout de suite, parce que je connaissais la parole, je savais si c'était bon ou si ce n'était pas bon. Comment peut-on juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais si on n'a pas la règle, la mesure? Si on ne sait pas comment discerner cela, si on n'a pas la communion avec le Saint-Esprit, qui nous donne le discernement, si ce n'est le Saint-Esprit? Et des fois, on court après les uns, après les autres, après des prédications en ligne, après des livres de tel ou tel auteur, et on oublie, on néglige la parole de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Maintenant que le mystère vous est révélé, vous allez pouvoir rejeter les fausses doctrines. Vous allez pouvoir faire la part des choses, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut rejeter totalement. Et on lit justement le conseil qui est donné dans le chapitre 2 de Colossiens. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de verbes qui sont donnés de la part de l'apôtre Paul. Il n'y a pas beaucoup de conseils, il n'y a pas beaucoup d'ordres. Il y en a un en tout cas qui est au verset 8. C'est celui-là. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » On est dans un monde où on va nous parler de Dieu, de toutes sortes de doctrines concernant Dieu, mais il y a beaucoup de doctrines qui mettent de côté la personne de Jésus-Christ, ou qui dénigrent le rôle que Jésus-Christ il a eu. Il y a même des religions qui se disent soi-disant chrétiennes, qui dénaturent totalement l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Et nous avons besoin d'avoir cet enracinement dans la parole de Dieu, que le mystère soit dévoilé à nos yeux. Ça se passe que dans la communion avec le Seigneur. On a besoin de ces choses pour pouvoir faire la part des choses. Est-ce que la philosophie, on a lu qu'il y a « prenez garde à la philosophie », est-ce que la philosophie c'est mauvais en soi? Ça dépend. Qui aimait la philosophie à l'école? Il aime toujours ça, est passionné, il peut y en avoir. Hein. Et en tout cas, ce qui est dit là, c'est que par la philosophie, il n'est pas question d'ailleurs de la philosophie de manière générale, mais même la philosophie peut être quelque chose de vain. Je pensais à cette chose toute simple, vous allez le comprendre. Je lisais dans un livre quelqu'un qui parlait du mot « vérité » en hébreu. Le mot « vérité » en hébreu, je crois, c'est « emet », et il est composé donc de différentes consonnes en hébreu, et la première d'entre elles, c'est la lettre « aleph », qui a la symbolique de Dieu. C'est une lettre qui est là, mais qui n'est pas prononcée finalement. Et quand on enlève au mot vérité la lettre Aleph, qui représente Dieu, ça donne le mot mort. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Quand on enlève à la vérité la réalité que Dieu existe, alors ça donne la mort. ça ne sert à rien. Quand on utilise la philosophie pour penser à notre monde et comment les choses se passent, comment l'être intérieur fonctionne, mais qu'on enlève la réalité que Dieu existe, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sert à rien. C'est vain, c'est inutile. Pourtant, les philosophes, certains ont dit des choses très intéressantes, et quelqu'un comme Socrate a pu dire des choses qui peuvent remettre en question les personnes, qui peuvent interroger les gens, qui peuvent faire réfléchir. J'ai pris des citations, moi j'aime bien Socrate, c'est ce qu'il nous dit. Mais on voit qu'il lui manque que Dieu. C'est la remarque que je me suis faite quand j'étais étudiant en philosophie à un moment donné. Quand j'avais un cours de philosophie, j'ai pas fait, vous inquiétez pas, une licence en philo. Mais en tout cas, il a dit par exemple, connais-toi toi-même. Bon, ça est censé quand même. Le fait de se connaître nous-mêmes. Souvent, on rencontre des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui ne s'avouent pas certaines choses. Comment est-ce qu'ils peuvent progresser dans un domaine ou dans un autre s'ils refusent de voir la réalité en face? Mais Jésus, lui, il a dit, c'est bien de se connaître soi-même. Jésus, lui, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus, lui, il veut que nous connaissions la vie éternelle. Il veut que nous connaissions celui qui nous donne la vie éternelle. Et ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Socrate a dit, je sais que je ne sais rien. C'est bien de savoir à un moment donné où sont nos limites. Mais ce n'est pas ça qui transforme notre vie non plus. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui a été sa vie transformée, sa vie totalement changée et qui a eu une nouvelle nature simplement en lisant un livre de philosophie. Par contre, combien de témoignages nous avons, et même ici, les gens pourraient se lever les uns après les autres et dire « Quand j'ai lu la parole de Dieu, quand j'ai entendu le message de la parole de Dieu, ma vie a été transformée. Il y a quelque chose qui s'est passé que je ne peux pas expliquer, si ce n'est que je sais que Dieu a mis sa main. » Socrate a dit « Je sais que je ne sais rien. » L'apôtre Paul a dit « Je sais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, je sais que tous les mystères de la sagesse et de l'intelligence, ils se trouvent révélés dans la personne de Jésus. » C'est bien d'arriver à un moment donné, on ne sait pas, on sait qu'on ne sait rien, mais il vaut mieux connaître Christ qui nous révèle toutes choses. C'est ça finalement que nous disons. Les philosophes cherchent la vérité, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Cet après-midi, nous avons besoin de nous recentrer, comme les Colossiens ont dû le faire, sur la personne de Jésus-Christ. Si Paul écrit aux Colossiens, c'est parce qu'il y avait des docteurs qui disaient « Non, laissez de côté Jésus ». Oui, suivez Dieu, mais laissez de côté Jésus. Il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment un homme, c'est Dieu, mais il était tout puissant, donc il a fait certains miracles, d'accord, il était venu sur la terre, mais c'était facile pour lui, c'était Dieu. Et ils mettent de côté le fait que Jésus était aussi pleinement homme. Et nous avons besoin cet après-midi de nous tourner vers le Christ. Si nous voulons être ces vrais chrétiens, dans le vrai sens du mot, alors tournons-nous vers le Christ, recentrons notre vie autour du Christ. Je voudrais voir quelques fausses doctrines qui étaient le partage de ces personnes qui peuvent aujourd'hui nous prêter à confusion aussi. Nous avons besoin d'être enracinés dans la parole. Là, il est question de la tradition des hommes qui est une de ces vaines et trompeuses philosophies. Par exemple, au verset 11 du chapitre 2, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous savez que la circoncision, c'était la tradition juive. C'était dans la loi juive que cela avait été institué. Et il y a des personnes qui s'élevaient à ce moment-là en disant « Il faut que vous soyez circoncis ». Ou juste après, au verset 16, il est question du respect des jours, du respect des fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, etc. Il fallait absolument respecter ça. Mais en même temps, ils avaient une hyper... Ils étaient hyper regardants à ces choses-là, et en même temps, ils étaient totalement tolérants face au péché. Après tout, on est bien faible. Après tout, on n'est que des hommes. On peut faillir. Et alors oui, il faut absolument être circoncis, mais en même temps, on peut être dans le péché. Et souvent, on entend des personnes qui... Bon, bien sûr, c'est plus ces choses-là auxquelles on est confronté. Mais peut-être que pour certains, la tradition des hommes aujourd'hui, c'est la tradition évangélique. Sans même regarder à une autre religion qui a certaines traditions, je crois que même dans notre Église, nous avons des traditions, des choses que nous faisons de manière régulière. La tradition, c'est un mot qui ne veut pas dire en soi quelque chose de mal, mais c'est le cœur que nous mettons à faire la chose qui change tout. C'est la façon dont nous le faisons qui change tout. Il y a une tradition évangélique. Il faut lire la Bible et prier à la maison. On est d'accord? C'est ce qu'on répète assez souvent. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est vrai, ça peut être une tradition. Il faut dire Amen, il faut dire Alléluia, il faut dire gloire à Dieu pendant le message. Ça peut se faire aussi. Il faut dire, quand on se parle à la fin, que Dieu te bénisse. Il faut se lever à la Sainte-Cène. Il faut élever la voix pour louer Dieu. Et on peut faire tout cela de manière traditionnelle. Tout ça, ça peut rester qu'une simple tradition, ou tout ça peut être le résultat de notre amour pour Dieu, l'expression même de notre amour pour Dieu. Je ne remets pas en question tout ce que je dis, mais je dis qu'on peut le faire et passer à côté de la volonté de Dieu. Comme moi je l'ai fait, pendant des jours et des jours, des mois et des mois, j'ai lu la Bible, mais je passais à côté de ce que Dieu me demandait. Et je le faisais pour apaiser ma conscience. Je le faisais pour de mauvaises raisons. C'est ce qui était le cas à Colosse. On leur disait de faire ceci ou faire cela, comme ça vous serez couverts. Je pensais à l'exemple d'un mari qui n'aime pas sa femme. Mais par contre, il a acheté le livre du meilleur mari, le mari parfait, avec tous les conseils qu'il faut. Alors il lit, le lundi, il faut que tu offres un bouquet. Le mardi, il faut que tu dises un compliment. Le mercredi, il faut que tu l'amènes au restaurant. Le jeudi, il faut que tu lui prennes la main. Et le mari, qui n'aime pas sa femme, qui a totalement perdu son amour pour sa femme, sa passion pour sa femme, il fait ces choses. Mais il les fait de manière technique. C'est-à-dire qu'il respecte à la lettre la chose, mais son cœur n'est pas changé. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour de ce mari pour sa femme? D'un point de vue apparence, on dirait que ça va. Mais est-ce que sa femme ne va pas ressentir qu'il manque ce lien? Est-ce que l'amour, ce n'est que des choses techniques? Vous comprenez comment cet homme peut tomber dans la tradition de l'amour même, la tradition du mari. Et nous-mêmes, nous pouvons tomber dans la tradition. Mais le Seigneur veut que nous soyons remplis de son amour. Quand je lis la parole et que je vois que ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Il n'a pas dit que Dieu recherche des gens qui prient tous les jours. Dieu recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Forcément, des adorateurs en esprit, en vérité, ils vont se mettre à prier tous les jours. Ça va couler, ça va être naturel. C'est normal parce que c'est comme ça que ça marche. C'est des gens qui vont tellement aimer le Seigneur qu'ils vont se délecter à lire la parole de Dieu qui parle du Seigneur. C'est des gens qui vont se prendre tout leur plaisir à venir à l'église et à élever leur voix, mais parce que c'est quelque chose qui va jaillir de leur cœur. Et souvent, on essaye de mettre sur les gens des fardeaux, alors qu'il faut d'abord que leur cœur soit changé. C'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure au niveau de la Sainte-Cène. Comment est-ce que je peux porter ce bon fruit si mon cœur n'est pas changé? Comment est-ce que je peux rejeter les mauvaises doctrines si je n'ai pas enraciné ma vie dans la parole de Christ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Un mari qui respecte à la lettre la tradition et qui est violent, qui est méchant? Ou un mari qui va être plein d'amour? Qu'est-ce qui vaut mieux? Un patron qui est un très bon chrétien à l'église le dimanche et qui le reste de la semaine est méchant et outrancier envers ses employés? Qu'est-ce que vous préféreriez? Quelqu'un qui est rempli de la personne de Jésus, non? Je crois que c'est le meilleur patron qu'on voudrait. La Bible nous dit, nous avons tout pleinement en Christ, c'est d'ailleurs dans les Colossiens que c'est dit cela. C'est-à-dire que toutes les traditions que nous pouvons faire et croire que ça plaît au Seigneur, finalement nous les avons toutes réalisées dans la personne de Jésus. Quand on y réfléchit, c'est en Jésus que nous sommes circoncis de cœur. En Jésus que nous considérons que tous les jours sont le sabbat finalement. Tous les jours sont des occasions de le consacrer au Seigneur. Il ne faut pas attendre le dimanche pour le consacrer au Seigneur. C'est tous les jours, parce que nous sommes en Jésus. Une des fausses doctrines qu'il y avait à l'époque aussi, c'était celle de, vous savez, les ascètes, ceux qui se traitaient durement dans leur corps, ceux qui avaient une discipline incroyable. On voit, dans les épîtres de Paul, on voit qu'il y a des églises qui étaient plutôt légères, qui étaient dans toutes sortes de péchés, même de la chair, des choses incroyables, quelqu'un qui était avec la femme de son père, c'est des choses, des péchés sexuels qui étaient là. Mais les Colossiens, eux, c'était totalement l'inverse, ils étaient très disciplinés. Il y avait beaucoup d'ordre parmi eux, et il y avait cette tentation de tomber dans la discipline qui prend la place de Dieu. Vous allez me dire encore, mais ça c'était à l'époque. Et je crois vraiment que c'est d'aujourd'hui. Parce que quand on rencontre le nombre de personnes qui nous parlent, par exemple, du jeûne et prière, et de toutes sortes de pensées qui accompagnent le jeûne et prière et qui sont fausses, qui ne sont pas révélées dans la parole. Toutes sortes de gens qui ont des révélations sur comment il faut jeûner et les mérites que cela nous donne, on se rend compte que finalement on a besoin d'entendre ces choses. Vous savez que le Saint Antoine, celui qu'on appelle Saint Antoine, qui Antoine le Grand, c'est celui qui est considéré comme celui qui a créé l'ermitisme, qui a créé ce mouvement où les gens allaient dans le désert pour se rapprocher de Dieu, se mettaient à l'écart du monde pour se rapprocher de Dieu. Et c'est, quand j'ai lu la vie de cet homme, je me suis rendu compte qu'il y avait une mauvaise compréhension de la parole de Dieu dès le début. C'était un gars qui venait d'une famille de riches agriculteurs en Égypte. Et cet homme, il a lu la parole de Dieu, il a lu Matthieu 19 en particulier, où il est question du jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui dit que « Seigneur, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Il faut que tu vendes tous tes biens. » Et cet homme, saint Antoine, il a pris à la lettre ce mot-là. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, il est devenu orphelin, et il a hérité de tous les biens de ses parents, mais il a pris à la lettre, il a vendu tous ses biens. Parce qu'il a cru que de cette manière-là, il allait pouvoir se rapprocher de Dieu. Et alors, il avait une sœur cadette dont il devait s'occuper. Il a mise dans une sorte de couvent, ce n'était pas le mot à l'époque, mais il l'a mise dans un endroit comme ça. Et tous ses biens, il les a donnés aux pauvres. Alors, ça paraît tellement magnifique. Mais pendant ce temps, il est allé, lui, dans le désert. Et il a commencé à vivre de manière pauvre. Et il a commencé à faire toutes sortes de choses que la Bible ne demandait pas de faire forcément. Et souvent, on est dans cette démarche de gagner quelque chose devant Dieu à cause de nos efforts. Ce qu'on entend souvent, c'est que le salut, on le gagne par ses efforts, par le nombre d'offrandes qu'on va pouvoir donner, ou par les choses que l'on va pouvoir faire, auxquelles on va renoncer. Et c'est exactement le cas de cet homme. Mais quand on voit comment on peut tordre la parole de Dieu, oui, mais on a besoin d'être enraciné dans cette parole. Le jeûne et la prière, j'en parlais, mais je voudrais insister dessus. Est-ce que vous savez que certains, ils pensent que parce qu'ils jeûnent, ils méritent que Dieu les exauce. Vous avez déjà entendu ça? C'est ce qu'on entend tout le temps, nous. Parce que je vais jeûner, le Seigneur va me bénir. Parce que je vais me priver de nourriture, c'est sous-entendu, c'est dans ce sens-là. Le Seigneur va devoir me bénir. Comme si les souffrances de notre corps, il faisait gagner quelques faveurs devant Dieu. Mais alors, à quoi ça sert la Sainte-Cène? À quoi ça sert le sacrifice de Jésus? S'il faut jeûner et prier en plus pour mériter quelque chose, à quoi sert la grâce de Dieu? C'est pas ça le jeûne et prière. Certains, quand ils jeûnent, ils cherchent la gloire des hommes. Et ils viennent vous voir et disent « Ah, moi j'ai jeûné une semaine. Waouh, c'est magnifique. Ah, moi j'ai jeûné 21 jours, c'est encore mieux. Ah, moi j'ai fait un jeûne comme le Seigneur Jésus de 40 jours. » Et les uns vont de leurs chiffres les plus grands et les plus épatants. Est-ce que c'est ça le jeûne et prière? Moi, quand je lis la parole, je vois pas qu'il faut se glorifier du nombre de jours qu'on jeûne. Je vois plutôt l'inverse. Quand tu jeûnes, montre à tout le monde que tout va bien. Ne montre pas que tu es en train de jeûner, a dit le Seigneur Jésus. Et on se trompe d'état d'esprit et on se fait des choses qui font souffrir notre corps. Certains pensent que le jeûne purifie leur organisme et ça leur permet donc de mieux s'élever devant le Seigneur. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être enraciné dans la parole? Jésus l'a dit, si, quand tu pries, ferme ta porte, entre dans le lieu secret et je suis là. Pas besoin de se priver de nourriture. Parce que comment feraient ceux qui ne peuvent pas, de manière médicale, faire des jeûnes? Ils sont pénalisés devant Dieu. Comprenez que c'est des théories bizarres. Nos cœurs ne sont pas purifiés par le jeûne et prière. Nos cœurs, ils sont purifiés seulement par une seule chose, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix du calvaire. Et si le Seigneur nous met à cœur de jeûner, c'est qu'en fait, il nous demande, le temps que nous aurions passé à manger, il nous demande de passer ce temps devant sa face. Mais de la même manière qu'il peut nous demander, le temps que nous passons devant la télévision, il peut nous demander un jeûne de télévision, entre guillemets. De passer ce temps que nous avons l'habitude de regarder la télévision à chercher sa face. De la même manière qu'il peut nous demander un jeûne de sommeil. Et on peut l'appliquer à toutes sortes de choses, à ces moments, ces choses temporelles dans notre vie qui nous prennent tellement de temps, qui nous empêchent finalement de nous rapprocher de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Regardez au Colossiens chapitre 2, verset 18, une autre
chose qui est dénoncée, une autre fausse doctrine qui est dénoncée par le Seigneur, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et qu'est-ce qu'il fait ? Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement, etc. Quelqu'un qui a des visions mais qui refuse de s'attacher à Christ. On entend souvent des gens qui ont des révélations incroyables sur des doctrines que la Bible n'a pas expliquées et eux, ils ont cette révélation et ils croient vraiment, j'ai discuté avec des personnes qui croient vraiment que là où la Bible n'a pas précisé certaines choses, eux, ils ont eu la révélation qui suivait la parole. Combien nous avons besoin de faire attention, de ne pas courir après les visions. Certains qui viennent nous voir, malheureusement, qui pensent que tout leurs songes, tous leurs rêves ont une explication spirituelle. Mais non, ce n'est pas comme ça. Les songes viennent de l'agitation des pensées. Que tout ce qu'on a vécu la journée, ça a une conséquence sur ce qu'on va rêver le soir. Même la parole de Dieu le dit, quand on l'étudie avec attention. Et on a besoin de ne pas courir après des visions. Moi, je crois qu'il faut regarder aux fruits, comme on l'a entendu aussi, le fruit de toutes les doctrines que nous entendons, quel fruit ça porte. Parce que les doctrines, la Bible parle des doctrines de démons, le fruit qu'elles vont porter, ça va être des mauvais fruits. Là, ça va être de la peur, ça va être de l'angoisse. Quand on voit la vision de quelqu'un avec un squelette au-dessus, pour moi, il n'y a pas du bon fruit qui ressort. À part si on a la vision que le Seigneur Jésus vient de détruire le squelette, mais sinon il n'y a pas de bon fruit, et ça ne sert à rien. Et je n'ai même pas parlé de cette chose à la personne concernée, parce que pour moi c'était pas inspiré. Et vous comprenez, on a besoin de regarder aux fruits. Qu'est-ce que cela amène ? Est-ce que cela fait du bien ? Est-ce que cela est bon ? Est-ce que cela nous permet d'avoir l'amour encore plus pour le Seigneur ? Ou est-ce que cela nous écarte du Seigneur ? Ou est-ce que cela nous garde dans la crainte, nous garde dans la peur ? On a besoin de filtrer toutes nos visions, tout ce que nous pouvons recevoir. Et c'est bien d'exprimer ce que nous avons reçu, mais on a besoin de le filtrer par la parole. Hier, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont montré un petit livre, parce qu'ils se demandaient si c'était la bonne doctrine ou pas, justement. Et c'est une excellente chose à faire. C'est vrai, quand on est jeune converti, il y a des livres, on n'arrive pas forcément à le discerner quand c'est bien présenté, quand il y a de belles images, quand il y a un contenu qui ressemble à quelque chose de chrétien. On a l'impression que c'est bien, mais on a besoin d'un conseil. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu tout de suite que c'était une, même pas une religion, quelque chose, je ne voudrais pas le citer même, mais que c'était quelque chose qui donnait des fausses doctrines. Mais est-ce que, quand on est nouveau converti, je le comprends, mais est-ce qu'au bout d'un certain temps, on n'a pas besoin nous-mêmes d'être au pied du Seigneur et d'apprendre dans sa présence ce qui est bon et ce qui n'est pas bon ? C'est sûr, quand c'est des détails théologiques compliqués, on vient voir le pasteur, on lui pose la question, bon, je suis d'accord. Mais à un moment donné, si on a des années d'expérience de vie chrétienne, est-ce qu'on a encore besoin de venir voir le pasteur et de lui dire, je ne sais pas si je peux lire telle ou telle chose ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette maturité, de savoir discerner le bien du mal, par la grâce que le Saint-Esprit habite en nous ? C'est lui qui nous amène à discerner ces choses. Maintenant que le mystère est révélé en Christ, je rejette les fausses doctrines. Maintenant que j'ai laissé ou que je laisse la parole de Dieu s'imprégner dans ma vie, j'ai la capacité de ce discernement. Mais au verset 6, il est dit ceci, du chapitre 2, hein. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, » Paul met toujours l'accent sur le Seigneur Jésus dans les Colossiens, « comme vous l'avez reçu, marchez en lui. » Et qu'est-ce qu'il dit ?« Étant enraciné et fondé en lui. » Affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Vous voyez qu'à chaque pas que nous devons faire dans notre vie chrétienne, nous devons vérifier que le pas que nous faisons, il est biblique, il correspond à la parole de Dieu. On a des chants qui nous disent « je veux courir dans les voies du Seigneur ». Même c'est le psaume 119 qui dit cela, « courir dans les voies du Seigneur », courir dans la parole de Dieu finalement. Et nous ne pouvons le faire que si nous connaissons la parole. Et à chaque pas, les deux verbes, ils sont là, marcher en lui et abonder en action de grâce. À chaque pas que je fais,
Je loue le Seigneur parce qu'il est là, parce qu'il m'aide à avancer, parce qu'il m'aide à marcher dans ses voies. Vous connaissez ce verset, vous le connaissez tellement bien. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais est-ce que vous l'avez médité, ce verset ? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que à chaque fois que j'ai une décision importante à prendre, je dois me tenir devant Dieu, me laisser inspirer par sa parole. À chaque fois que j'ai quelque chose, un choix important à faire, je dois être rempli de l'Esprit de Dieu pour arriver à cette communion avec le Seigneur qui va me permettre de prendre cette bonne décision. Souvent, on cite « Ah oui, ta parole est une lampe à mes pieds » et puis on utilise toutes sortes d'autres lampes de ce monde pour nous éclairer. Et après, on s'étonne que ça ne marche pas. Alors que la Bible, elle est tellement simple. C'est la parole de Jésus qui est une lampe. C'est le Seigneur Jésus-Christ, la communion avec lui, qui est une lampe. Je ne voudrais pas être plus long cet après-midi. Mais maintenant que le mystère est révélé, peut-être quelqu'un va dire, mais pour moi, le mystère, il est encore tout entier, ce mystère. Le mystère de l'Évangile, le mystère de la foi, le mystère de la piété, pour moi, c'est encore obscur. J'ai un besoin que les ténèbres se dissipent. Mais la Bible nous dit que c'est seulement par Jésus. C'est Jésus qui nous transporte du royaume des ténèbres, de la puissance de Satan dans le royaume du Fils de son amour. C'est Jésus qui nous fait cela. C'est Jésus qui nous réconcilie avec le Père. C'est Jésus qui guérit les aveugles spirituels. Si cet après-midi, pour vous, ces choses sont difficiles, parce que vous avez encore la difficulté à comprendre le mystère de la foi, alors demandez au Seigneur Jésus qu'il vous éclaire, tout simplement. Et pour vous qui connaissez le Seigneur, soyez ancrés dans la parole de Dieu. Et tout ce que je vous ai dit cet après-midi, ne le prenez pas pour argent comptant, parce que ça serait passé à côté du message. Mais vérifiez que c'est écrit dans la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Bérée qui regardaient si tous les enseignements de l'apôtre Paul, pourtant l'apôtre Paul il était quand même assez haut placé d'un point de vue enseignement, mais il vérifiait chaque parole de ce qu'il disait. Faites de même. Et à chaque fois que vous entendrez un pasteur prêcher, et quand vous allez sur Internet écouter un message, est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu ? Est-ce que c'est la saine doctrine ou pas ? Enracinez-vous. Soyez fondés et enracinés. J'aime cette expression, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui. Je crois que c'est le seul moyen qu'on peut avoir de marcher de manière solide dans ce monde où il y a la tempête qui est là, qui fait des ravages. La Bible nous parle d'un fleuve de mal qui vient. Mais le Seigneur a dit que son esprit le chasserait. J'arrive plus à retrouver le verset, mais vous le connaissez. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, voilà, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que vous croyez ces choses ? Alors inclinons nos fronts et croyons que dans ces instants, le Seigneur veut nous donner, renouveler cet amour pour sa parole, veut nous rendre solides afin que nous ayons ce discernement pour rejeter les fausses doctrines, pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Les Colossiens ont failli être arrêtés dans leur progrès par des hommes qui leur racontaient toutes sortes de choses, qui parlaient de discipline, ça avait l'air tellement merveilleux, ça avait l'air tellement beau les traditions dont ils parlaient. Et il y avait un certain attrait d'un point de vue discipline, mais ils passaient à côté du Seigneur. Ne faites pas ces choses sans vous attacher au Christ. Restez attachés au Christ, c'est ça qu'il leur disait l'apôtre Paul finalement. Et vous aurez la force pour rejeter ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et de prendre ce qui est bon. Mes amis, dans ces instants, est-ce que nous n'avons pas besoin de demander au Seigneur qu'il renouvelle en nous l'amour de sa parole, le zèle pour lire sa parole ? À toi, mon ami, qui te targue de lire tellement de livres et qui n'a même pas lu la Bible en entier, Seigneur t'appelle. Seigneur te dit, quel est le livre qui est la vraie nourriture de l'âme ? Est-ce que ce n'est pas sa parole ? La parole qui sort de sa bouche, sa parole qui est vivante et qui est efficace, la parole sur laquelle tu peux bâtir ta maison, la parole qui est ce feu qui va embraser ta vie. Le Seigneur t'appelle à être embrasé de ce zèle pour sa parole. à sonder les Écritures, mais à le sonder avec le désir d'être en communion avec le Seigneur. Les pharisiens sondaient les Écritures, oui, mais ils voulaient plaire aux hommes. Ils recherchaient la gloire des hommes. Nous voulons sonder les Écritures, mais pour avoir la vie de Jésus. Mon ami, cet après-midi, regarde à ta vie. Toi qui te trouves tellement fragile de point de vue spirituel, toi qui te trouves tellement faible d'un point de vue spirituel, regarde à ce que tu lis, regarde à ce dont tu te nourris et fais le bilan. Regarde ces choses que tu laisses rentrer dans ta vie. Le Seigneur voudrait te dire, lis ma parole et sois fortifié. Lis ma parole et sois encouragé, que dans ces instants, oui, tu puisses prendre la résolution de mettre la parole de Dieu au centre de ta vie, la communion avec le Seigneur au centre de ta vie, car c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Merci Éternel, parce que dans ces instants, nous croyons que ton Saint-Esprit parle au cœur. Nous croyons que dans ces instants, Seigneur, tu parles à celui qui est encore dans l'aveuglement, tu parles à celui qui est encore dans les ténèbres. Et Seigneur, tu lui parles de réconciliation, tu lui parles de faire la paix avec toi, Seigneur. Et parce que tu es mort sur la croix, ces choses sont possibles aujourd'hui à cause de ta grâce. Seigneur, tu parles aussi à celui qui veut aller plus loin dans la foi, à celui qui veut faire des progrès, à celui qui veut marcher de manière solide dans la foi, Seigneur. Alors tu lui parles dans ces instants et tu lui révèles que toutes choses sont dévoilées en toi. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à l'aimer. Aide-nous à être des hommes de la parole, Seigneur. Des hommes qui connaissent, qui aiment, qui méditent, qui lisent cette parole et qui s'en imprègnent tous les jours. Éternel, tu as dit que heureux était l'homme qui méditait ta parole. Oh oui, Jésus, nous voulons nous mettre sous cette bénédiction que tu as donnée, Seigneur. Bénis ces instants, bénis chacun d'entre nous, tu connais là où nous en sommes. Alors Seigneur, parle-nous afin que nous puissions encore aller plus loin avec toi et que nous puissions surtout, Seigneur, avoir du répondant face à ces fausses doctrines, face à ces personnes même qui s'illusionnent, qui sont dans l'ignorance, Seigneur, afin que nous-mêmes nous puissions être utiles pour les amener à la lumière, pour la gloire de ton nom Jésus. Amen.